Allô, allô, ah oui, bien oui. Ah oui, c'est mieux.
Choisi la littérature grecque au détriment du cinéma pour ce soir. Donc bienvenue pour cette nouvelle rencontre autour du livre que nous organisons en partenariat avec la Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire. Je précise que Patrick Deville doit nous quitter avant la fin de la rencontre, donc vous inquiétez pas s'il prend ses affaires et il s'en va. Je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Sawas, qui est donc enseignant-chercheur à l'INALCO et directeur du CERLOM, qui est donc le Centre d'études et de recherche des littératures et des oralités du monde. Voilà. Je précise juste encore une chose, c'est que après la rencontre, si vous voulez réagir ou poser des questions, je vous demande d'attendre que je vous passe le micro. Voilà. Merci, à tout à l'heure.
Merci beaucoup. Dans le cadre de sa riche programmation culturelle, dont le fil rouge est cette année la contestation du pouvoir, la Bulac organise une fois par mois une rencontre autour du livre. Je voudrais d'abord, au nom des membres du Centre d'études et de recherche sur les littératures et oralités du monde, le CERLOM, dont vous venez de parler, saluer la qualité de l'environnement que propose la Bulac aux enseignants-chercheurs et aux étudiants de notre institut, non seulement grâce à la gestion d'un fonds documentaire exceptionnel, mais aussi par la diversité d'une programmation culturelle ouverte sur les 5 continents. En effet, après la Croatie et l'Asie centrale, avant la Corée du Sud et la Tchétchénie, c'est la Grèce qui ce soir est à l'honneur, quelques jours avant l'ouverture du Salon du Livre de Paris. L'helléniste que je suis s'en réjouit particulièrement et, au nom de mes étudiants et de mes collègues enseignants-chercheurs de grec moderne, je remercie la Bulac pour cette initiative. La table ronde de ce soir, intitulée Lire et écrire en Grèce, quel refuge face à la crise, se propose de mettre en perspective la crise que connaît aujourd'hui le marché éditorial en Grèce. L'intensité, la durée et la complexité de la crise économique y a bien sûr frappé de plein fouet le monde du livre. Il faudra s'interroger sur la nature de cette crise globale, dont les médias valorisent les éléments conjoncturels plutôt que de se pencher sur les causes structurelles. Je suis très honoré d'avoir été convié par la Bulac à animer cette rencontre, durant laquelle 4 intervenants, entre Athènes, Saint-Nazaire et Paris, feront part de leur expérience dans un court exposé de 15 à 20 minutes. L'écrivain Patrick Deville, directeur littéraire de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, l'écrivain Hercy Sotiropoulou, l'ancienne directrice du Centre national du livre de Grèce, Catherine Velissaris, et moi-même, enseignant-chercheur à l'INALCO et traducteur. Cette rencontre est organisée par la Bulac en partenariat avec la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, dont le directeur littéraire Patrick Deville, à ma droite, prendra la parole en premier. Romancier, Patrick Deville est l'auteur de 5 livres publiés aux éditions de Minuit entre 1987 et 2000 et de 5 livres publiés au Seuil entre 2004 et 2012. Son parcours a croisé à plusieurs reprises les aires géoculturelles étudiées à l'INALCO. Il a longtemps vécu au Moyen-Orient, dans le Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Il a créé dans les années 90 le prix de la jeune littérature latino-américaine et la revue de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, maison dont il est aujourd'hui le directeur littéraire. Il va maintenant nous présenter les activités de cette institution et la participation d'écrivains grecs et de traducteurs à ces activités. Vous avez la parole, monsieur.
Je vous remercie de cette invitation. Enfin non, puisque je suis aussi l'invitant, pardon. Je vous remercie de votre présence, voilà, et de cette soirée. Et je vais dire un peu ce qu'est cette maison et puis la présence de Hercy, qui est écrivain résident depuis un mois, non, moins d'un mois, presque un mois, pour 2 mois ou 2 mois et demi, voilà. Donc, cette maison qui a 25 ans est principalement en permanence depuis 25 ans un lieu de résidence d'écrivains étrangers qui viennent travailler avec une bourse dans le calme et le retrait en Bretagne et au-dessus du port de Saint-Nazaire. C'est également, même si ça depuis 25 ans, c'est le socle de cette activité. C'est également une maison d'édition de livres bilingues qui fait un travail de découverte, c'est-à-dire que les écrivains qui viennent en résidence sont souvent des écrivains, ou parfois des écrivains, souvent, qui n'ont pas encore été traduits en français, qui n'ont pas d'éditeur en France, et donc nous leur proposons, ça n'est absolument pas coercitif, de nous soumettre à l'issue de la résidence, un an après ou 6 mois après, un ouvrage en langue originale, et que nous publions éventuellement, il n'y a absolument aucune contrainte ni de part et d'autre, mais enfin tout de même depuis 25 ans à peu près, dans cette collection-là qui s'appelle Les Bilingues, environ 150 titres ont été édités de toutes les langues du monde, avec ce but de faire connaître aux lecteurs français, aux éditeurs français également, ces écrivains. Alors évidemment, ceux qui sont venus il y a longtemps, pensez aux Argentins, César Aïr, Alan Pauls, Ricardo Piglia sont lus aujourd'hui partout, mais enfin ils ont été édités là d'abord en bilingue, le chinois Gao Xingyan, etc. C'est également une maison qui remet des prix littéraires chaque année. Et puis, dans l'activité de cette maison d'édition, il y a également la publication chaque année de 2 panoramas littéraires. Depuis, donc c'est le numéro 17 cette année, donc nous aurons publié 34 panoramas littéraires. Ces panoramas littéraires, donc le 34e sera le grec, ça aurait pu venir avant. Ces panoramas littéraires consistent à présenter en bilingue, hein, puisque tout ce que cette maison édite est en bilingue, c'est-à-dire langue originale et traduction française, une dizaine, 10-12 écrivains contemporains pour montrer ce qui s'écrit à ce moment-là, dans ce lieu-là. Donc l'année dernière, c'était par exemple Quito et Dublin. Cette année, ce sera donc Santiago de Chile et Athènes. J'ai décidé que ce serait Athènes, donc ça fait 17 ans que nous faisons cela, parce qu'il me semblait que c'était le bon moment. Je ne suis évidemment, pour ce qui me concerne, je ne suis spécialiste de rien, et surtout pas de la littérature grecque. Mais il me semblait intéressant pour d'autres raisons culturelles, politiques, économiques. D'inviter cette année des écrivains grecs. Alors à la fois en résidence, c'est le cas de Hercy en ce moment, 10 ou 12 seront édités en bilingue dans ce panorama. Donc là, je travaille avec l'Institut français, avec l'ambassade à Athènes et avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Descotes, avec qui j'avais travaillé déjà lorsqu'il était à Milan, Olivier. Voilà. Et pourtant, j'avais travaillé avec lui lorsqu'il était à Milan et j'ai oublié son prénom. Et puis, d'autre part, donc, ces publications bilingues paraissent en novembre chaque année. Et là, nous inviterons également en France quelques écrivains grecs à qui nous passerons commande de textes, puisqu'en novembre, donc au-delà de l'édition, de la résidence, des prix littéraires et de ces panoramas, cette maison organise chaque année 2 grandes manifestations littéraires, une au printemps dans l'abbaye de Fontevraud, qui est consacrée à chaque fois à une œuvre considérable autour de laquelle nous nous enfermons dans l'abbaye en rassemblant traducteurs, critiques, écrivains. Ce sera cette année Aimé Césaire en juin, c'était l'année dernière, Juan Rulfo vient de paraître, Antonio Tabucchi, Malcolm Lowry, etc. En novembre, c'est différent, nous invitons des écrivains d'un peu partout dans le monde, et également des écrivains français qui, pour venir, acceptent d'écrire un texte de commande sur le sujet de ces rencontres chaque année. C'est donc à la fois géographique et thématique. Et cette année, des écrivains grecs participeront à ces rencontres. Ils seront, alors pour certains, dans ce panorama bilingue, pour d'autres, non, mais écriront des textes de commande. Et j'espère que, puisque Hercy est la première écrivain grec qui vient en résidence dans cette maison, Par contre, nous avons, il y a quelques années, remis un prix littéraire de la meilleure œuvre traduite en français dans l'année à un autre écrivain grec, Angelis Asianidis. Voilà. Voilà pour le fonctionnement de cette maison, et je vous laisse la parole.
Merci, monsieur. La deuxième intervenante est Ersi Sotiropoulou. Prosatrice grecque, elle a publié 13 livres entre 1982 et 2011 et reçu de nombreux prix littéraires en Grèce, dont récemment le prix national de la nouvelle en 2012, je crois. Deux de ses romans sont disponibles en traduction française, d'ailleurs vous pouvez les consulter à la Bulac. Zigzag dans les Orangers, Zigzag Cisnerandies, paru chez Maurice Nadeau en 2003, et Dompter la bête, Damajandas Toktinos, paru aux éditions Kidam en 2011. Plongée dans la rédaction de son prochain roman à Saint-Nazaire, où elle est en résidence, à la Maison des écrivains dont on vient de parler, elle vient ce soir nous livrer son témoignage d'écrivain face à la crise du livre que connaît la Grèce. Vous avez la parole, madame.
Bonsoir. Là, je suis à Saint-Nazaire depuis bien des semaines, et tout se passe très bien. C'est l'endroit, je crois, extraordinaire pour quelqu'un qui veut s'isoler et écrire. Je suis arrivé de la Grèce avec un sentiment d'oppression presque physique. Et là, lentement, en observant les mouvements du port, la vie de l'appartement de la maison de la maison est si prenante. Et en plus, surtout grâce à cette lumière qui change tout le temps, j'ai commencé à retrouver les décalages et les calmes qui sont nécessaires pour pouvoir travailler. Car écrire en temps de crise n'est pas évident. Et dans les maisons d'édition, on ne parle pas de crise, on parle de survie maintenant. Les mesures d'austérité ont paralysé l'économie et la culture a été une des premières victimes. Pour vous donner un exemple, j'ai été membre du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de Grèce jusqu'à février. Le siège de la bibliothèque, qui était un magnifique monument historique, présente les dernières années des problèmes graves de statique, de mécanique, de problèmes structurels, mais il n'y a rien à faire. Le budget pour 2013 de la Bibliothèque nationale de Grèce est de 329 000 euros. Avec ça, on n'a pas même les moyens pour couvrir les besoins les plus basiques, le chauffage, la climatisation, la sécurité, le nettoyage, rien. Même pas parler pour trouver embaucher les personnels spécialisés, ou même, il n'y a pas même l'argent pour renouveler les abonnements à des journaux et revues indispensables. La crise a touché tout, et le marché du livre a chuté verticalement. Personnellement, je n'ai pas de difficultés jusqu'ici à me faire publier, mais je sais qu'on publie de moins en moins. Et on donne privilège, surtout, au livre qu'on essaie de bien vendre. Et ça, comme vous comprenez, va avoir une répercussion négative sur la qualité. Et ne parlons pas des revenus des auteurs, ils sont dérisoires. Dans cette situation, j'essaie d'écrire comme j'écrivais avant, mais c'est vrai qu'il m'est beaucoup plus difficile de me concentrer. Parfois, c'est moi à Athènes, assise devant mon bureau, j'ai l'impression d'un tremblement de terre imminent. C'est un sentiment comme la ville allait me bombarder. Ça suffit de sortir à Athènes dans les rues et cette disparition vous prend par la gorge. Les immeubles noircis, les magasins abandonner les boutiques qui ferment une après l'autre, et puis tous ces gens, les immigrés, les nouveaux sans-abri, les infirmes, les drogués, les vieilles femmes qui cherchent dans les emballages de cirés, de poubelles, les mendiants qui ne demandent plus d'argent, on dit, ils vous disent, achetez-moi quelque chose à manger. C'est trop fort. On continue, mais c'est très difficile de continuer comme ça. Et ça, au début, je veux dire, j'avais l'illusion que la crise au tout début, que la crise pourrait être même bénéfique dans un sens, et pour freiner ce consumérisme infantile et imbécile, cette dictature de lifestyle qui engraisse les dernières années, les années de vaches grasses, la décennie 2000, mais qu'on pourrait, je pensais qu'on pourrait peut-être revenir à l'essentiel, retrouver le goût de l'amitié, se retrouver dans un ami. Mais je me trompais complètement, car la crise, c'est toujours quelque chose, c'est une dévastation psychique, même morale, à vaste échelle. Et Athènes aujourd'hui, c'est une ville à bout de force, une ville vaincue, trahie surtout par elle-même, par la classe politique de différentes couleurs, le gaspillage, la corruption. Aussi, elle se sent trahie par ses partenaires européens qui se sont révélés incapables d'entretenir un véritable esprit de solidarité. Et aussi, les Grecs se tracassent des questions d'identité presque existentielle, car sommes-nous vraiment les parias de l'Europe, les fainéants pourris qui vivent sans travailler aux dépenses des autres européennes, sommes-nous ça? Donc ce sentiment de trahison qui est très fort en Grèce en ce moment peut devenir très dangereux, car les gens deviennent plus en plus confus et agressifs, perdent complètement leur confiance aux institutions, et je crois que même la démocratie se trouve en danger, car on ne doit pas oublier qu'il y a moins d'une génération qui nous sépare du jour où le pays s'est libéré de la dictature des colonels. C'est presque récent. Et là maintenant, on voit avec une montée terrifiante de la délinquance que de nouveau des forces obscures, néfastes, comme la l'aube dorée s'appelle, qui prend, mais qui elle devient très présente. On ne peut pas dire comment ça va influer sur la littérature, sur l'écriture. Moi, comme écrivain, j'ai toujours besoin de distance et d'un décalage. Et déjà, dans mes livres précédents, la crise et ses signes prémonitoires étaient là. Même qui sont des romans écrits dans des périodes complètement innocentes, des périodes sans nuages. Mais je pense que l'écriture est très importante maintenant. Et si on considère que l'occupation allemande de 41 à 43, 44, qui était bien pire, et là, les gens mouraient de faim, il y avait des cadavres, on laissait les cadavres traîner dans les rues, mais les poèmes les plus importants du mouvement moderniste et surréaliste, comme Amorgos de Gatsos, Bolivar de Gonopoulos, et plusieurs des meilleurs poèmes d'Odyssée Stylites, ont été écrits précisément sous l'occupation allemande en Grèce à ce moment-là. Et ce que je trouve formidable, moi, c'est que ces poèmes-là ne décrivent pas les horaires, ne parlent pas de l'atrocité de chaque jour, mais sont envahis d'une extase lyrique sans précédent, d'une extase aussi très innovative du point de vue de la forme littéraire. Voilà, même en temps de crise, le langage, les mots nous aident à vivre. Merci.
Merci beaucoup, madame, pour ce très beau témoignage. Bon, je crois qu'on peut peut-être vous applaudir. C'est très émouvant. Merci beaucoup. Troisième intervenante. On fera un débat à la fin. Je crois que c'est ainsi que vous concevez ces rencontres. Catherine Vélissaris donc, est notre troisième intervenante. après le point de vue d'un écrivain français, d'un écrivain grec. Elle va nous livrer son témoignage en qualité d'ancienne directrice du Centre national du livre de Grèce, juriste de formation, française vivant en Grèce depuis les années 80. Elle a mis sur pied et dirigé à Athènes le Centre de traduction littéraire de l'Institut français, puis le Centre européen de traduction littéraire, avant de prendre la direction du Centre national du livre de Grèce, donc de 2004 à 2012, centre qui vient d'être fermé, comme de nombreuses institutions grecques. Nous allons maintenant écouter son point de vue sur la crise du marché du livre en Grèce.
Bien, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette manifestation pour leur invitation. Alors, effectivement, ce qu'a dit Hercy Sotiropoulou est très intéressant et je partage totalement son regard sur ce qui se passe actuellement en Grèce. Nous vivons une situation extrêmement difficile, douloureuse, car il ne s'agit pas que d'une catastrophe économique, c'est aussi une catastrophe sociale qui ébranle les fondements même de la société grecque. Quand vous avez 26% des gens qui sont au chômage, et certainement beaucoup plus, 60% même pour les jeunes, que pour ceux qui ont la chance de travailler, les salaires baissent de 20, 30, voire plus, pourcent, du jour au lendemain, que pour les retraites, les retraités, les retraites sont baissées de 40%, là aussi, du jour au lendemain, et ce n'est sans doute pas fini, que les gens sont écrasés d'impôts exceptionnels, rétroactifs, en tout genre, que l'état social est quasiment absent, et que la vie ne baisse pas. La population est à genoux, on le serait à moins. C'est qu'on lui demande de revenir brutalement au niveau des années, de la fin des années 80. Bon, ce ne serait pas en soi dramatique si ce retour en arrière se faisait progressivement sur 10 ou 20 ans. On vivait bien en Grèce à la fin des années 80, et puis on peut apprendre à moins consommer. Mais on lui demande de le faire en quelques mois. Les gens n'ont pas le temps de se retourner. C'est une crise d'une violence inouïe. Il n'est pas sûr qu'en Europe, on a tout à fait conscience de cette réalité. Mais le plus grave, c'est que cette catastrophe est aussi symbolique. Il s'agit d'une crise de l'avenir, de la confiance dans l'avenir, dans le rapport à l'Europe. Bon, heureusement, quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter, mais en Grèce, on se demande si on a vraiment touché le fond ou s'il y a un double fond. Alors, le livre dans tout ça. Il est vrai que le livre, jusqu'il y a encore peu, semblait être le secteur de la culture qui résistait le mieux à la crise. Il s'agissait d'un secteur sain de l'activité économique. Les maisons d'édition, par exemple, sont quasiment toutes des entreprises familiales, encore aux mains des fondateurs ou de leurs héritiers, et peu ou pas ou très peu endettées. Et donc, elles ont été capables d'assumer les premiers contre-coups de la crise. Mais c'était sans compter que la crise durerait. Nous sommes dans la sixième année de récession. Dans aucun pays européen, même en temps de guerre, une récession n'a duré aussi longtemps. En fait, c'est la librairie qui a craqué la première. Comme les ventes des livres chutaient de plus en plus, on estime aujourd'hui qu'on est arrivé à peu près à 30-35% de baisse. Les petits éditeurs qui ont un faible volant, les petits libraires qui ont un faible volant d'affaires ont commencé à avoir beaucoup de mal à faire face à leurs charges fixes. Quant aux plus grosses librairies, notamment les grandes chaînes, comme elles s'étaient beaucoup développées ces dernières années, faisant de gros investissements, elles ont commencé, elles aussi, à avoir du mal à faire face à leurs charges et notamment à rembourser leurs prêts. Parce que comme il y a une crise de liquidité, les banques ne prêtent plus, ces grandes librairies se sont mises à ne plus payer les éditeurs. À Athènes, il y a deux grandes librairies qui payent, c'est tout. Alors cela fait boule de neige, les éditeurs à leur tour n'ont pas pu payer leurs imprimeurs, leurs auteurs en traduction, en tout cas le plus souvent mal et avec retard. Bien sûr, il y a toujours des exceptions au principe. Alors cela, ça a eu évidemment de nombreuses conséquences. Tout d'abord, ça a entraîné une baisse de la production éditoriale assez importante. On est quand même passé de plus de 10 000 titres il y a 4-5 ans à environ 8 000 titres. Ça n'est pas obligatoirement un mal, parce que nous étions dans une surinflation éditoriale par rapport à la population et au nombre de lecteurs. Donc là, quelque part, la crise va réguler le marché. Ensuite, on publie plus de textes grecs, plus de littérature grecque et moins de traductions. Les traductions sont passées à peu près de 42% à 32% de l'ensemble de la production. Alors, ça reste évidemment important, mais c'est quand même une baisse significative. Il faut faire le parallèle avec la France. La Grèce est un pays traditionnellement très ouvert sur le monde et qui traduisait presque un livre sur deux. On va passer à un livre sur trois très vite parce que la tendance se confirme. Alors, cette baisse, évidemment, tient bien sûr au coût de la traduction, mais plus profondément sur un questionnement sur l'identité nationale. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? D'où le succès des romans historiques ? Nous en reparlerons plus tard. Il peut s'agir aussi d'un repli sur soi. Il ne faut pas négliger ce point. En revanche, il y a trois phénomènes plus inattendus. Le premier, on aurait pu penser que les éditeurs, vu la situation, se montreraient plus frileux à éditer de jeunes auteurs. Eh bien non. L'année dernière, il y a eu 148 premiers romans qui ont été publiés contre 124 l'année précédente. Ce n'est pas négligeable. Il y a eu 160 nouveaux recueils de poésie publiés donc cette même année. C'est intéressant. Le second est qu'on aurait pu penser que les éditeurs aillent essentiellement sur le roman, laissant les secteurs les plus difficiles, les plus fragiles de l'économie, comme le théâtre, la poésie. Eh bien là non plus. Les textes connaissent un essor formidable. Je crois en fait que ça tient à la vitalité des petits éditeurs qui aujourd'hui peuvent n'éditer que 200 ou 300 exemplaires et travailler dans leur cuisine. Donc ceux-là, ils sont prêts à prendre des risques. Ce sont eux qui font bouger les choses actuellement, parce que les gros éditeurs se montrent plus frileux et préfèrent éditer des valeurs sûres. Alors bien sûr, on le comprend, parce que le coût de leur structure est évidemment beaucoup plus important, et vu la situation difficile, prendre des risques n'est pas sans risque. Donc ils laissent en fait les petits éditeurs jouer le rôle de tête chercheuse. C'est en tout cas intéressant de voir que la dynamique de l'édition de la jeune création n'est pas cassée par la crise. Le troisième phénomène inattendu, c'est qu'à ce jour, malgré la crise, il n'y a pratiquement pas d'éditeurs, on peut dire même aucun, qui est fermé. Des éditeurs même historiques, ont d'immenses difficultés, mais ils ne baissent pas les bras, ils se battent et ils arrivent encore à tenir. En revanche, les kiosques, les librairies ferment comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces en Grèce actuellement et dans les grandes villes en particulier. Mais ces librairies auraient peut-être de toute façon fermé, voir ce qui se passe en Angleterre et dans d'autres pays. Des institutions aussi ferment. Ça a été noté tout à l'heure. Le Centre européen de traduction littéraire Ekemel, que j'avais fondé en 2000 avec le Centre national du livre grec et une équipe de grands traducteurs, n'existe plus, tout comme la résidence d'écrivains et de traducteurs de Paros. Alors, et comme si tout cela ne suffisait pas, au moment où on aurait besoin plus que jamais d'une politique du livre, le ministre de la Culture ferme en janvier dernier le Centre national du livre grec après 19 ans d'existence. Alors cette décision a provoqué un tollé général. L'association des écrivains, la principale association des éditeurs et libraires, l'association des bibliothécaires, universitaires, se sont insurgés contre cette décision pour le moins curieuse. Des pétitions ont circulé qui ont réuni plus de 7000 signatures. Rien n'y a fait. Alors on peut s'interroger bien sûr sur le devenir des missions du centre. Quid des actions de promotion de la lecture et du livre, des aides à la traduction, des précieux fichiers électroniques, de Biblionet, qui est la principale base de données bibliographique en Grèce, c'est-à-dire c'est le électre grec, et qu'utilisent toutes les librairies, les professionnels et amoureux du livre. Quid de la participation grecque aux grandes expositions du monde? Quid des deux expositions du livre que le Centre national du livre a initiées et gérées? Celle du Salon international du livre de Thessalonique et le Salon jeunesse d'Athènes. Que va-t-il se passer pour l'Observatoire du livre électronique, toutes les études que faisait le centre, etc. Le ministère annonçait que toutes les activités, en fait, seraient transférées au ministère. Pourquoi pas, me direz-vous ? Quoi qu'on puisse légitimement se poser la question de savoir si le ministère a aujourd'hui, il ne les avait pas en 1994, à la création du centre, les moyens humains, le savoir-faire, le réseau international, la souplesse de l'action pour le faire. Rien de moins sûr. En tout cas, depuis janvier, rien n'a été fait. Les activités sont en souffrance. Alors on peut s'interroger sur les raisons profondes qui ont poussé le ministère à le faire. Était-ce finalement le dégât collatéral d'un vaste mouvement jacobin de recentralisation de toutes les politiques vers les ministères? Nous l'avons cru au début, jusqu'à voir que rien ne se faisait au ministère et surtout jusqu'à lire, il y a quelques jours, dans un grand journal, ce que disait le conseiller du Premier ministre en charge des affaires culturelles, la création n'a pas besoin d'institutions. Voilà, tout est sans doute dit. Là est sans doute l'explication de la fermeture du centre et expliquerait aussi pourquoi tant d'autres institutions culturelles sont en souffrance actuellement en Grèce. Je pense au très emblématique Festival d'Athènes qui, à 3 mois de son ouverture, vient tout juste de voir un directeur nommé à sa tête. À moins tout simplement que la culture, sous couvert d'ultralibéralisme, ne soit pas une priorité. Winston Churchill, en des temps autrement plus graves, puisque c'était la guerre, avait diminué à l'époque tous les budgets, sauf les budgets de la défense et de la culture. À une journaliste qui s'en étonna, il répondit « Mais alors, pourquoi faire la guerre, si ce n'est pour défendre nos valeurs, notre culture ?» Autre temps, autre lieu, autre vision. Enfin bon, c'est un autre débat. Revenons à lire et écrire en Grèce aujourd'hui. Commençons par écrire. Hercy en a très bien parlé, je veux juste faire 3 remarques. La première est qu'il y a actuellement en Grèce une dynamique créative, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs de la culture, notamment le cinéma. Non seulement les écrivains qui écrivaient continuent d'écrire, mais on sent un bouillonnement, une jeune création qui se réveille. Nous avions organisé au CNL l'année dernière le premier festival des jeunes créateurs, en dialogue avec les autres domaines de la création, cinéma, danse, théâtre, etc. Et c'était absolument flagrant. D'ailleurs, Hercy participait au jury de sélection. La seconde est que les écrivains n'écrivent pas encore sur la crise. On n'écrit pas à chaud en Grèce comme aux États-Unis, par exemple, avec Don DeLillo sur l'attentat de 2001. On a, en revanche, le sentiment qu'à travers la situation psychologique des personnages, on voit très bien comment ils vivent la situation. Je vous prends un exemple en allant vers un jeune auteur de théâtre, Yanis Mavritsakis, dont 2 pièces ont déjà été jouées au Théâtre National et une même en français au Théâtre de l'Odéon l'année dernière. Pour sa dernière pièce, Vitriol, qui n'est autre qu'un long poème, Olivier Pie, avant de prendre les rênes du Festival d'Avignon en 2014, met actuellement en scène cette pièce à Athènes, nous disait la semaine dernière, lors d'une rencontre à l'Institut français d'Athènes, que ce qui l'avait intéressé dans ce texte, c'est le texte lui-même bien sûr, mais c'est surtout le personnage central qui est, et ce n'est pas un hasard, un adolescent. Car ce qui se passe en Grèce, c'est moins une crise du présent que de l'avenir. Il a trouvé extrêmement intéressant de rendre compte d'une jeunesse interdite. Alors c'est un texte complètement désespéré, mais comme dit Olivier Py, la poésie la plus désespérée peut produire plus d'espoir que n'importe quel autre texte. Rappelez-vous le chef-d'œuvre de Thanassis Valtinos, La Marche des Neufs. C'est un texte complètement désespéré, mais d'où émergeait à la fin l'espoir, la vie plus forte que tout. Alors dans ce texte de Mavritsakis, on est tout de suite au cœur de la souffrance. Le tragique du personnage reflète bien la situation. Bon, il y a bien sûr quelques livres qui ont été écrits sur fond de crise. Vous avez les livres de Petros Markaris, qui, comme tous les policiers, ont recours à l'intrigue et au mystère, non pas tant pour raconter une histoire que d'aborder des phénomènes de société brûlants, comme la corruption économique et politique, l'inégalité sociale ou encore le sort des immigrés. Mais il n'est pas, même dans son œuvre la plus récente, tout à fait au cœur maintenant de la crise. Il est paru aussi il y a quelques semaines une anthologie sur la crise, mais c'est une commande de texte et elle a un côté, à part une ou deux exceptions de nouvelles, un côté un peu artificiel, c'est pas écrit avec les tripes. Il y a le dernier livre de Théodore Grigoriadis qui vient de sortir mais que je n'ai pas encore lu, qui paraît-il est très bien, qui lui aussi est sur fond de crise. Le seul en fait, livre vraiment très intéressant sur la crise, sur le sujet, et qu'il aborde de façon frontale, plus frontale en tous les cas, c'est le recueil de nouvelles de Christos Economou. Quelque chose va se passer, tu vas voir. C'est un jeune écrivain qui ira loin, retenez son nom. Et ce livre est d'autant plus intéressant que c'est un livre anticipateur. En fait, il a été écrit en 2010, tout comme Delillo avait écrit sur les attentats de 2001, avant même l'attentat lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on peut attendre d'un écrivain. Mais à part ce qu'on vient de dire et qu'on peut considérer comme des exceptions, on n'écrit pas actuellement sur la crise en Grèce. Ça prendra certainement du temps. Lire maintenant. Alors, est-ce qu'on lit plus? Est-ce qu'on lit différemment? Je crois qu'il est intéressant de situer le contexte général. La Grèce n'est pas un pays où, en règle générale, on lit beaucoup. Bon, évidemment, on peut faire le parallèle avec d'autres pays méditerranéens. La Grèce n'est pas la Finlande. Et ce faible intérêt peut s'expliquer de multiples façons. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Je dirais juste que cela tient essentiellement au système éducatif. On n'apprend pas à devenir lecteur. Il n'y a pas de culture de la lecture dans le système éducatif. Au CNL, on a beaucoup travaillé sur les sujets. On est même arrivé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, à instaurer une heure de plus dans le programme du primaire pour l'apprentissage de la lecture, pour essayer de donner le goût de la lecture. Il faut en plus reconnaître qu'en Grèce, le livre n'est pas toujours accessible. Même si les librairies sont plus nombreuses ces dernières années, en dépit de la fermeture de certaines, en revanche, il y a très très peu de bibliothèques. Elles échappent qui plus est à la compétence du CNL qui était en charge jusqu'à hier de la politique du livre. À cela s'ajoute le prix du livre, surtout en ces temps de crise. C'est à peu près une moyenne de 17 euros par livre. Ce n'est pas négligeable et il n'y a pas de livre de poche. Ceci dit, ces dernières années, la situation de la lecture avait eu tendance à changer. Les gens lisaient plus. Selon les dernières études du CNL qui remontent à 2010, il y avait plus de lecteurs qui lisaient et ceux qui ne lisaient pas du tout avaient baissé. Alors, quelle situation aujourd'hui? Est-ce que la crise a une incidence sur la lecture? En l'absence de statistiques récentes, on ne peut pas répondre. Simplement, on peut constater la chute des ventes de livres dans les librairies et on peut penser que même si certaines bibliothèques nous disent n'avoir jamais fait autant de prêts, qu'en fait, la crise détourne de la lecture, les gens vont vers une actualité plus brûlante, voire vers la lecture de journaux, quoique, mais aussi se portent mal, voire vers rien du tout, dégoûtés de tout comme ils le sont aujourd'hui, pour en tous les cas, la grande majorité. Est-ce que les gens lisent différemment ? Là aussi, nous n'avons pas de statistiques récentes, je ne le crois pas, ceci dit. À part la lecture ponctuelle de quelques essais sur la crise, il y a 80 livres qui ont été publiés l'année dernière sur le sujet, surtout d'ailleurs d'auteurs étrangers, on lit le même type de livres. On lit toujours autant de romans. Peut-être, ce que je disais tout à l'heure, davantage de romans historiques et de polars. Mais ça, c'était déjà une tendance des dernières années qu'en fait, la crise n'a fait que conforter. Puis de toute façon, c'est une tendance de la plupart des pays européens. Voilà, à grands traits, brosser la situation. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je conclurai juste sur une note optimiste dans ce contexte d'année noire. J'en parlais hier avec un grand critique littéraire qui était tout à fait d'accord. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations sur et autour du livre qu'aujourd'hui, notamment à Athènes, et que ces manifestations font salle pleine. Et pas comme auparavant, seulement avec quelques amis de l'auteur. On l'avait d'ailleurs déjà observé l'année dernière au 9e Salon international du livre de Thessalonique, où si les gens n'achetaient pas ou n'avaient pas pu acheter tous des livres, en revanche, les 6 amphithéâtres durant les 3 jours du salon n'avaient pas désempli, pire, n'avaient pu contenir tout le public qui voulait y participer. Voilà, donc c'est une situation dure, mais je crois que les gens ne baissent pas les bras et que c'est quelque chose que je vous ai dit vont dans ce sens.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Il me revient de clore cette table ronde. Alors, je voudrais peut-être pour introduire ce débat, revenir sur l'un des mots du titre retenu par la Bulac, le mot « refuge ». Quel refuge face à la crise ? Le refuge, en grec « tokatafi », est le titre d'une revue annuelle lancée en 2008 par une petite maison d'édition grecque. On a beaucoup parlé des petites maisons d'édition, très important, Epsilon, qui fait le choix de publier presque exclusivement des textes à caractère littéraire et en particulier de la poésie. La dernière livraison de cette revue, au titre emblématique, donc « Le refuge », est prête, mais tarde beaucoup à paraître dans un contexte où on ne peut plus compter le nombre de revues qui ont dû fermer. Par ailleurs, dans le monde grec, les mots acquièrent toujours une résonance inédite dans l'espace et surtout dans le temps. Nous trouvons ce mot refuge, tokataphio, dans le dernier vers de l'un des sonnets grecs les plus célèbres, composé à un autre moment de crise nationale, alors c'est pas dans les années 40, mais c'est dans les années 20, après la catastrophe d'Asie mineure, quand la Grèce exsangue accueille plus d'1,5 million de réfugiés, donc d'Asie mineure, sur fond de crise économique, politique et sociale. En 1927, quelques mois avant de se donner la mort, le poète Kostas Kariotakis publie un sonnet sans titre, dont voici le dernier tercet. Dans le corps, dans le souvenir, nous souffrons, le réel nous rejette, et la poésie est le refuge que nous envions. Στο σώμα στην εμφύμιση πονούμε, μας διώχνουν τα πράγματα, qui piscis in et tokatafio puthonome. Ce mot refuge invite ainsi à de nombreux allers-retours spatio-temporels. L'une des assertions les plus choquantes récemment véhiculées à l'envi dans les médias est que la Grèce moderne n'aurait rien apporté au monde. Assertion inexacte, blessante, qui, sans cesse réitérée, s'immisce insidieusement dans les esprits, parfois jusqu'en Grèce même, qu'il faut donc battre en brèche fermement. Je m'en tiendrai au seul domaine littéraire. Il n'est en effet pas inutile de souligner que tout au long de son histoire plurimillénaire, le grec a été parlé et écrit et a donné lieu à des monuments littéraires. Et si l'on s'en tient à la période moderne et contemporaine, il n'est pas anodin de rappeler que deux prix Nobel de littérature ont été décernés à des écrivains grecs, c'est-à-dire autant et même plus qu'à des écrivains, eux aussi, issus d'immenses pays à tradition écrite, comme la Chine ou le Japon. D'autant que ces prix Nobel, attribués donc à Georgos Seferis en 63 et à Odysseas Elitis en 79, ne doivent pas faire oublier d'autres très grands écrivains grecs qui n'ont pas pu ou dont certains de leurs compatriotes ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas les recevoir. En poète et peut-être aussi en diplomate qu'il était, Georges Seferis, à Stockholm, devant l'Académie Nobel, a voulu revenir sur la tradition littéraire néo-grecque en en dégageant les principaux fils. La démarche est habile et, à mon sens, toujours d'actualité. Présenter les écrivains grecs d'aujourd'hui implique de les situer, bien sûr, à l'échelle des flux littéraires mondiaux dont ils sont nourris et auxquels ils prennent part, mais aussi au sein d'une tradition littéraire néo-grecque qui reste méconnue. Il est en effet paradoxal de voir des écrivains grecs traduits, notamment en français, et il y en a beaucoup, mais sans que leur œuvre soit connectée aux auteurs néo-grecs du passé. Des textes grecs sont en effet bien traduits, mais il faudrait se demander si la littérature grecque moderne a une réelle existence sur le marché éditorial francophone, à l'image de la littérature polonaise, hébraïque ou scandinave. Des initiatives éditoriales ont pourtant posé les premiers jalons, comme par exemple dans les années 90, la collection Confluence chez Attier, ou, et vous y avez participé, la collection grecque des éditions Actes Sud, qui ont inscrit à leur catalogue, à côté d'écrivains contemporains, des prosateurs de premier plan de la fin du 19e et du début du 20e siècle, comme Emmanuel Roivis, Alexandros Papadiamandis ou Konstantinos Theotokis. C'est cette logique qui a présidé à la rédaction de l'anthologie Le Conseil de la Cloche et autres nouvelles grecques 1877-2008. Je crois que vous allez avoir la couverture derrière moi, que j'ai établie, traduite et commentée pour le compte des éditions Rudul, mais dont on m'a demandé de dire quelques mots. Les 15 nouvelles présentées en traduction française sont représentatives d'un genre littéraire en général boudé par les éditeurs français, la nouvelle, mais qui joue un rôle majeur dans la littérature néo-grecque. Ces textes, publiés en grec entre 1877 et 2008, sont révélateurs de la diversité du genre de la nouvelle tel qu'il est cultivé par les écrivains grecs d'hier et d'aujourd'hui, d'Alexandros Papadiamandis à Cosmas Politis, de Konstantinos Theotokis à Sotiris Dimitriou. En travaillant sur ce livre, j'ai découvert ou redécouvert des textes d'une étonnante actualité et peut-être plus en phase. Vous avez parlé de ce décalage très intéressant du traitement d'une crise d'une génération à l'autre. Pour clore cette table ronde et ouvrir le débat, je voudrais vous lire l'un d'eux, un texte bouleversant écrit par l'un des prosateurs majeurs de la littérature néo-grecque, Alexandros Papadiamandis, écrivain qui n'occupe pas encore, à mon sens, la place qui lui est due dans les lettres européennes. Ce texte paraît dans un quotidien athénien, alors le contexte est intéressant, en 1896, c'est-à-dire l'année où la capitale grecque accueille les premiers Jeux olympiques des temps modernes, intitulé « Le derviche déchu »,« Oxepesmenos dervisis », il suit l'errance d'un musicien turc, comparé au Christ, dans une Athènes dont le narrateur critique, non sans ironie, le fonctionnement institutionnel. On a beaucoup parlé d'institutions. On a également parlé de lyrisme. Madame Sotiropoul a mentionné la question du lyrisme. Alors là, un lyrisme incantatoire singularise cette nouvelle à la lisière du poème en prose. Et cette nouvelle n'est reprise en volume qu'en fait que bien après la mort de son auteur, dans les années 1950. C'est un auteur qui meurt en 1911. Alors pourrait-elle incarner, pour reprendre les termes de Kalliota, qui se, je cite, « refuge que nous envions » Le derviche déchu. 2, 3, 5, 10 gouttes, semblables aux pas monotones du marin de garde qui veille sur le pont. Il vogue sur des flots noirs et voit le ciel et la mer qui dansent sauvagement et, enveloppé dans sa capote, il fend d'un coup l'obscurité avec le rouge de sa cigarette qui se rallume et s'éteint. les coqs n'avaient pas encore chanté trois fois. Peut-être avait-il eu peur de la voix profonde, plaintive, du vendeur de salep qui s'était mis à l'automne, en pleine nuit, à crier. C'était comme le croassement d'un rapace inconnu qui, égaré dans les airs, s'était introduit dans la ville en quête de proies à saisir. Chaud, il boue. Il bouillait en pleine nuit. Chaud le salep, plus chaud encore le lit. Seule la voix du vendeur de salep faisait peur au coq. Il avait un peu plu, puis le temps s'était radouci. Des gouttes tombaient tout doucement du chéneau à l'intérieur de la cour. Et où trouver mieux dans ce monde ? L'exclamation retentit dans le noir, de la voix, de la bouche du vendeur de salep. La fenêtre grinça, crac, depuis la chambre basse qui donnait sur la rue. Un homme surgit, enveloppé dans un châle. Il tendit un grand verre au vendeur de salep, mais celui-ci tardait. L'homme se pencha pour voir. Une grande figure, avec un turban blanc, un manteau noir et une tunique colorée, se tenait devant le vendeur de salep. Où dans ce monde ? Boudunia, Tchark Filek, Ashk Olson, murmura le vendeur de salep. Il n'avait pas reconnu l'homme, mais l'habit. Tout autre l'aurait pris pour un fantôme, mais lui ne se leurra pas. Il était de ces contrées-là. Il était apparu. Quand ? Il y a des jours, il y a des semaines. D'où ? De Roumélie, d'Anatolie, de Stamboul. Comment ? Pour quelle raison ? Qui ? Était-il derviche ? Était-il Bektachi, Hodja, imam ? Était-il Ouléma, lettré ? Grand, le teint mat, sympathique, doux, sauvage, avec son turban, avec son zouboun, avec son doulama. Était-il en faveur, en disgrâce ? Avait-il prospéré ? Avait-il déchu ? S'était-il exilé ? Boudunia, Tchark Filek, ce monde est une sphère qui tourne. Ce soir-là, une joyeuse bande l'avait invité, 7 ou 8 amis inséparables. Ils aimaient la vie, la jeunesse. L'un d'eux faisait cuire du yuvetsi tous les soirs. Les autres mangeaient. Il organisait des loteries et gagnait 10 ou 15 drachmes par jour. Qu'en ferait-il ? Il leur faisait cuire du yuvetsi et les invitait. C'était des lotophages, dans tous les sens du terme. Ils aimaient les chansons, les instruments de musique. Le derviche ne buvait pas de vin, il buvait du mastic. Eux aussi étaient des derviches. Ils lui dirent de chanter, il chanta. Ils lui dirent de jouer du naï, il en joua. Ils n'aimèrent pas. Oh, ceci n'est pas un amané. Ce n'en était pas un comme eux le connaissaient. Mais le derviche leur avait chanté le vrai amané. Il revint au café. Le café, face au Tézéon, la taverne à côté du café. Tous deux en face de l'ancienne gare. Au-delà du café, on creusait le tunnel. Il était ouvert à l'automne de cette année-là. Le derviche était assis là et buvait du mastic. S'il se trouvait quelqu'un pour lui en offrir, avec son turban, avec sa barbe grise bouclée, avec son tchibouk, il avait plus de 50 ans. C'est là qu'il passait ses nuits depuis quelque temps, sans toit, sans foyer, vagabond. Le petit café avait l'autorisation de rester ouvert toute la nuit. Il venait des tripots, des théâtres, les clients. Il venait du marché aux légumes. Il buvait du rhum et de la sauge. Le derviche jouait parfois du naï. Le gardien de la paix se divertissait, il aimait écouter. C'était un homme bon. Longtemps auparavant, quand il avait été nommé, il était plein de zèle. Quand il voyait une bagarre, il courait tout de suite séparer les combattants. Un de ses vieux collègues le prit en pitié. « Quand tu vois une bagarre, cours par la rue d'à côté, attends que soit passée la fureur, et là seulement, présente-toi. » Et lui donna un autre conseil. « Dans la bagarre, regarde toujours qui est le plus fort, et garde-toi. Morigène le plus faible, donne-lui une gifle même, et rétablis l'ordre. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. » Et puis, chaque fois qu'un nouveau supérieur est nommé, le premier jour, il est plein de sévérité, c'est pour en imposer. Le deuxième jour, il se refroidit. Et le troisième jour, il se rend. Toi, plie-toi au patron et même fais du zèle pendant ces 3 jours. Précieuse recommandation. Ces jours-là, un nouveau policier avait été nommé. Pour montrer son zèle, il ordonna la fermeture du café cette nuit-là. Le lendemain ou le surlendemain, il autoriserait de nouveau à rester ouvert. Mais c'était tombé cette nuit-là et ce fut une funeste nuit. Le bon gardien de la paix se rappelait les conseils de son collègue. Il devait forcer le cafetier à fermer. Il ne permit pas aux garçons de rester, voulant éviter qu'ils ne se lèvent pour ouvrir à ceux qui allaient probablement frapper à la porte. Il ne permit pas aux derviches, au sans-foyer, à l'errant, de rester, sous prétexte qu'il jouait d'une aille, attirait du monde et ne laissait pas les voisins dormir. Le derviche, avec son turban, avec son zouboun, avec son doulama, prit son tchibouk, son aille et s'en alla. Où irait-il ? Il fit quelques pas sans but autour du café. Il y avait là-bas le tunnel, on le creusait, il était ouvert. Il faisait froid au cœur de la nuit, à 1 heure du matin. L'agent de faction déambulait au-dessous du kiosque, recouvert de zinc, qui abritait les échoppes du coin. Le derviche errant s'engouffra au fond du tunnel. Peut-être espérait-il s'y trouver plus à l'abri du vent. Il s'assit, il s'adossa. Il songeait à l'inconstance des choses humaines. Ash olsun chivirine. Heureux celui qui sait le faire tourner, ce monde. Un peu plus tard, l'agent qui se promenait alentour se demandait ce qu'était devenu le derviche qu'il avait vu s'engouffrer dans le tunnel. Où était-il ? À cette question sans voix, répondit une voix, un son, un air doux. Le musulman étranger était gelé là où il était assis et tombait de sommeil. Pour se réchauffer, il sortit son aille et se mit à jouer l'air qui lui revint par hasard en mémoire. Naï, naï, doux. Naz a une lettre du mot coquetterie. Brise, ciel, chant onctueux, de miel, délicat, enivrant. Naï, naï. De deux petits points, il diffère du nez, le oui que dit le Christ. Le nez tranquille, humble, paisible, le nez humain. En bas, dans le fond, dans la fosse, dans le gouffre, comme le murmure d'un ruisseau dans son lit, une voix s'élevant des profondeurs, comme une essence, comme un souffle, comme un gaz, comme une vapeur, un traîne, une passion, une mélodie, venue sur le duvet d'une brise nocturne, un transport élevé, serein, amène, pur, chuchotant, aigu, grimpant dans les rafales, accordant les vents, saluant l'immensité, implorant l'infini, enfantin, innocent, ondoyant, une voix de vierge plaintive, un soupir d'oiseau en peine, aspirant au retour du printemps. Les murs épais et les colonnes volumineuses du Tézéyon, le toit imposant, ne s'étonnèrent pas de cette voix, de ce chant. Ils se le rappelaient, ils le reconnaissaient. Ils l'avaient déjà entendu dans les siècles de servitude, dans les temps de gloire. Cette musique-là n'était pas aussi barbare que sont censées l'être les tribus asiatiques. Elle avait une parenté étroite avec les antiques harmonies phrygiennes et lydiennes. Les heures avancées s'en furent et c'était encore la nuit. Elle étendait encore ses ténèbres et le vendeur de salep criait pour vendre sa marchandise et les coqs se recroquevillaient dans le poulailler. La petite fenêtre grinçait et le vendeur de salep poursuivait en turc son dialogue avec le derviche, le sans-abri, l'expatrié. Depuis des heures déjà, le chant mystérieux et doux s'était tu. Le naï était tombé de sa main. Le ciel était nuageux, il s'était mis à pleuvoir, il put quelques minutes, puis la pluie cessa. L'agent avait disparu, engourdi, mouillé, refroidi. Le derviche remonta dans le monde d'en haut. Il prit une ruelle, juste devant le sanctuaire des saints archanges. Une ruelle que la respectable commission avait appelée, en l'inscrivant sur une plaque, rue Les Peignotis. Même Les Peignotis, cœur de lion, quoiqu'il nourrit une passion vengeresse suite au meurtre du grand héros, son frère, aurait compati, et son esprit, si son esprit était par extraordinaire venu flâner là-bas, et s'il avait pu voir le malheureux derviche, chassé, exilé, sans foyer, frissonner le long de l'étroit passage, ramper entre deux lignes de vieilles constructions. Le vendeur de salep aussi eut pitié de lui, et en guise d'aumône, il lui donna à boire un double salep, un demi-coulouri à y tremper, laissant le voisin au châle, qui avait quitté depuis peu son lit chaud, prendre froid à attendre à la petite fenêtre. « Allez, vendeur de salep, que diantre, bout d'unia !» Ce matin-là, le derviche but du salep, il mangea même du coulouri. Toute la journée, il succombait au sommeil, où qu'il vint à s'asseoir. Les jours suivants, il passa encore la nuit dans le café nocturne qu'avait traversé la funeste nuit. Il buvait du mastic et fumait sa pipe. De temps à autre, il jouait encore du naï. Puis, quelques jours plus tard, il disparut et plus personne ne le vit. Est-il en vie ? Est-il mort ? Erre-t-il en d'autres lieux ? A-t-il été rappelé d'exil ? Est-il retourné au pays ? Nul ne le sait. Peut-être, à l'heure qu'il est, A-t-il regagné la faveur du puissant padishah? Peut-être est-il un grand parmi les oulémas de Stamboul. Peut-être excelle-t-il en imam dans quelque illustre mosquée. Peut-être est-il favori du calife, chef des oulémas, cheikh ou l'islam. Bou dunya, chark filek. Je vous remercie. Bien, nous avons 20 minutes de débat. Si vous souhaitez poser des questions à nos deux intervenantes. Oui. N'oubliez
pas d'allumer vos micros pour qu'on vous entende. Vous disiez, madame, que les librairies étaient en train de fermer les unes après les autres. Est-ce qu'il existe en Grèce un système de vente tel que Amazon, ou est-ce que ça n'est pas encore on ne peut pas encore l'accuser d'être responsable de la fermeture des petits points de vente de livres?
Accuser, c'est une part très minime actuellement, les ventes encore via Amazon. Je ne sais pas si RC est d'accord, mais non, on ne peut pas dire. Non, c'est le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de toutes petites librairies. Et vu cette baisse qui est quand même importante, c'est 30-35%, le volant d'affaires étant pas suffisant, elles ont de grosses difficultés. Alors, on n'a pas de statistiques, c'est pas l'hécatombe, mais il y a quand même un mouvement de fermeture qui est quand même assez important, mais pas plus important que d'autres commerces actuellement à Athènes. Et c'est dans le mouvement général.
Une autre question à nos intervenantes?
Bonsoir. J'aurais une question pour Hercis Sotiropoulos. Comment réagissent les auteurs actuellement en Grèce? Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des réactions un peu collectives qui prennent forme?
Il y a des réactions par rapport, par exemple, Madame Vélissaris a déjà parlé de la réaction de tous les écrivains à ce qui concerne la fermeture du Centre national du livre. Et il y a un an, je crois, demain, le même jour qui est la journée de la poésie, il y a eu, et ça c'était drôle aussi, des manifestations, une grande manifestation des écrivains dans les rues d'Athènes, ou une manifestation pacifique où ils lisaient des textes. Il y avait une forte... J'étais en Italie, je n'étais pas là malheureusement, mais ça s'est passé très bien. En même temps, l'écriture est toujours quelque chose de solitaire. Mais je crois qu'on voit aussi les jeunes, d'après ce qu'on a vu, de très jeunes même, après l'expérience qu'on a eue l'année dernière avec ce festival qui était très solidaire entre eux. Et beaucoup de jeunes poètes, vraiment de très très jeunes.
Oui, Bernard.
Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots des livres de sciences humaines en Grèce? Quelle est leur situation?
De quoi?
Les livres de sciences humaines. C'est plutôt à Madame Vélissari.
Plutôt à Madame Vélissari.
Oui, c'est un secteur qui est touché, bien évidemment. Ça fait partie des livres difficiles. Ceci dit, on parle toujours en l'absence de statistiques, donc c'est compliqué de dire quelque chose de scientifique. Mais les éditeurs de sciences humaines me disaient qu'ils tenaient, parce qu'en fait, le public qui lise ces livres est le public qui lit. Il n'y a pas de, c'est pas lié à des phénomènes de mode ou de choses comme ça. Ça fait partie du noyau dur du lectorat. Et ceux-là, même si les conditions deviennent de plus en plus difficiles, ils feront tout pour continuer à acheter des livres de sciences humaines. Donc, non, je ne crois pas qu'ils soient particulièrement touchés. En général, les essais ne sont pas touchés. Le seul domaine sur lequel on voit, les éditeurs prendre peu de risques, c'est sur l'essai littéraire. Il n'y a pratiquement pas, à l'heure actuelle, d'essais qui sortent sur, dans ce domaine-là. Mais de toute façon, c'était assez limité. Non. Il n'y a pas de grands changements. Les grands secteurs, enfin, je veux dire, la façon dont la production éditoriale était il y a 4-5 ans est quasiment la même aujourd'hui.
En ce qui concerne les revues, tout de même, parce que moi j'ai l'impression que la plupart des revues que nous lisions dans les bibliothèques ne paraissent plus. Enfin,
la revue, c'est un autre secteur, ça c'est sûr, qu'elles connaissent de très 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 grandes difficultés. Elles ne trouvent plus, les gens n'achètent plus beaucoup de revues littéraires, il n'y a plus de mécènes, il n'y a plus de... il y a beaucoup de revues qui ont fermé ces derniers temps. Mais malgré tout, c'est ce que je disais, il y a ce phénomène d'un éditeur de revue, parce que c'était quand même des petites revues, un éditeur de revue continuera à travailler dans sa cuisine avec des moyens finalement économiques dérisoires, et parce que c'est un passionné, il va continuer à le faire. Mais on a assisté à plusieurs fermetures cette année de revues, ce qui est toujours très dommage, parce que ce sont des laboratoires, des viviers de textes, et notamment de très jeunes auteurs. Oui. Maintenant, c'est compensé par un phénomène d'aujourd'hui qui est que les jeunes créateurs, et on l'a beaucoup vu l'année dernière au premier festival, sans doute le dernier, premier festival de la jeune création, les blogs marchent très bien, ils s'échangent entre eux, ils s'envoient entre eux leurs textes, ils les mettent sur Facebook. Alors tout ça, ça peut nous échapper à nous, parce qu'on a plus facilement l'habitude de lire ce qui est écrit. Mais en réalité, il ne faut pas le sous-estimer, et que la génération en dessous de 30 ans communique de cette façon-là. C'est-à-dire elle a trouvé un moyen de remplacement. D'accord. de la revue telle qu'on la connaissait.
Donc après la littérature, les sciences humaines, la création littéraire, est-ce que d'autres questions... Attendez, parlez peut-être dans le micro, parce que sinon on n'entend pas très très bien.
Merci. Une chose qui m'a frappée, j'ai pas retenu le chiffre, mais vous avez l'air de dire que la poésie était encore extrêmement éditée en Grèce. Vous m'avez mal entendu ?
Non, vous avez raison. La poésie est éditée. Alors, c'est un secteur assez particulier, parce que, notamment pour la jeune poésie, des éditeurs, et des éditeurs avec pignon sur rue, enfin des éditeurs connus, demandent une participation des auteurs. Alors, oui. Ça n'est pas une publication à titre d'auteur, puisque c'est publié par des éditeurs du marché, mais ils se font financer la première, la deuxième édition. Donc, comme en Grèce, on écrit beaucoup de poésie, si on n'en lit pas beaucoup, du coup, ça maintient la production de poésie. Et il y a d'excellents jeunes poètes qui sont en train de montrer le bout de leur nez.
Mais est-ce que pour l'essai, c'est pas à peu près pareil, c'est-à-dire un mode de financement qui est quand même évidemment...
Ah non, je crois pas. Dans l'essai, je crois pas. Je sais pas si vous avez d'autres informations. Non, dans l'essai, j'ai pas, j'ai jamais entendu dire que un auteur financé.
Dans l'essai scientifique.
Oui.
Ah bon.
Comme en France, il y a des éditeurs qui effectivement connus là aussi acceptent que enfin, ne publie les textes que s'ils sont financés. En Grèce, j'ai pas d'exemple. Vous pensez à quel éditeur ?
Bon, je pense pas à des éditeurs particuliers. Je pense à nombreux essais qui paraissent, voilà, des études universitaires. Il me semble que depuis très très longtemps, elles sont quand même quasiment intégralement financées. Alors évidemment par d'autres institutions, hein, mais donc c'est vrai qu'on a après une image du marché du livre qui est assez biaisée. C'est peut-être. Je réfléchis à la question posée par Bernard.
J'ai vraiment jamais entendu parler, mais si vous le dites.
Et puis bon, après, il y a certains projets éditoriaux qui ont du mal à aboutir. Enfin, j'ai eu pas mal de témoignages de poètes. Précisément, vous parliez de poètes à qui on a demandé des textes pour des anthologies. Ils ont fourni les textes et l'anthologie n'a pas pu paraître. Donc c'est vrai que... Voilà, faute de financement.
Il y a un retard. Il y a beaucoup de textes qui restent dans les tiroirs des éditeurs avec une programmation qui devait se faire cette année et on retarde. Ça, c'est sûr. Non, mais ce n'est pas une situation idyllique actuellement. Bien sûr. Mais il y a une telle résistance, à la fois une telle force créatrice et une telle résistance de tous les maillons de la chaîne du livre, que c'est la situation pourrait être bien pire. C'est ça que je voudrais faire passer, parce que il n'y a pas de maison d'édition qui est fermée, il n'y a pas de celle qui a fermé il y a 3-4 ans, qui appartenait à un grand groupe de presse, a fermé pour d'autres raisons, c'est pas la crise qui l'a touchée. Il y a une dynamique qui est là, les gens ne baissent pas les bras, et ça c'est extrêmement extrêmement important.
J'ai une réaction plutôt au dernier propos que vous avez, enfin à la fin de votre intervention, Catherine Valissaris. Vous aviez l'air de dire qu'il y avait des manifestations culturelles qui étaient très fréquentées. Je suis un peu étonné et en même temps pas du tout. Mais qu'est-ce que ça signifie selon vous, ça ? Est-ce qu'il y a un lien avec un déplacement vers le spectacle vivant ou quoi ?
Non, je crois que les gens ont besoin de comprendre, ont besoin d'échanger, ont besoin de sortir d'une actualité brûlante et catastrophique. Ils ouvrent leur poste de télévision, c'est une somme de mauvaises nouvelles. C'est une sortie bon marché, mais c'est pas ça à mon avis qui est en jeu. C'est de pouvoir discuter sur ce que fait la littérature et les livres en général, qui, s'ils n'apportent pas de réponse, permettent un questionnement et un enrichissement. Et il y a ce besoin de comprendre, ce besoin d'analyse, ce besoin... Vraiment, c'est ce que je disais, ça avait été flagrant l'année dernière, quand à Thessalonique, il y avait 6 amphithéâtres qui proposaient toutes les heures un nouveau débat, une nouvelle rencontre avec un écrivain, et qu'il y avait un monde fou, on s'est dit, mais il y a toujours eu du monde, mais qu'est-ce qui se passait quand même ? Ça, cette espèce de soif de comprendre, ce besoin de comprendre, parce que c'est extrêmement violent ce qui est en train de se passer. Or, on le vit, on est dedans, donc c'est à chaud, et on a l'impression qu'on prend dans ses mains des pièces du puzzle, mais qu'on n'arrive pas à reconstituer le puzzle. Donc plus on discutera, plus on sortira, et il faut pas... Et ce sont des discussions libres, parce qu'il faut voir quand même que dans la presse, qu'elle soit télévisée ou écrite, la parole n'est pas obligatoirement, selon beaucoup de gens, très libre actuellement. Donc, aller assister à des rencontres d'écrivains et tout ça, c'est assister à, et prendre part à un débat peut-être moins phagocyté, dont les dés seraient moins pipés. Il y a une très grande manipulation, sinon.
Est-ce qu'un mouvement populiste comme l'Aube dorée a sa répercussion dans la création littéraire actuelle ?
Répercussion directe des écrivains inspirés. C'est un phénomène qui choque, qui est très douloureux, parce que, comme j'ai dit, les mémoires de la dictature sont très proches. Et là, je ne sais pas si je vais répondre exactement, peut-être vous, Catherine. Moi, j'ai aussi une histoire assez même drôle maintenant, qui est accusée par Plevris, qui est de ce mouvement-là de pornographie. Donc, mais être inspiré ou pas, c'est quelque chose, c'est une réalité sociale qu'on vit avec ça. Que au début, c'était quelque chose un peu excentrique, hein, mais excentrique, on s'est rendu vite compte qu'il se traite, qu'il s'agit de quelque chose de très dangereux et pas aussi isolé qu'on croyait.
Peut-être faut-il rappeler quelque chose ici qui peut être particulièrement choquant, c'est que des acteurs revendiquent ouvertement qu'ils votent pour Aube dorée. Ah, mais bien sûr, mais tout à fait. Des footballeurs, des personnes qui ont pignon sur rue. Est-ce que vous connaissez un acteur français qui prétend voter pour un parti d'extrême droite? Et sachez que l'Aube dorée, ce n'est pas le Front National. Hein. C'est vraiment le camp très, très au-dessus. Donc ça fait pas mal réfléchir quand même. Autre prise de parole?
On va peut-être clore donc cette soirée. En tout cas, merci beaucoup pour ces interventions. Merci à vous d'être venus. Et je vous donne comme information que notre prochaine rencontre aura lieu le 4 avril. Ça sera sur la littérature aussi, mais cette fois sur la littérature féminine en Corée. Voilà, et vous avez l'affiche qui est derrière vous. Merci.